Bonjour chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel Info Club Sandwich, le dernier de la semaine puisque nous sommes le vendredi 24 janvier. Je suis une nouvelle fois en compagnie d'Aline pour réaliser cette émission. C'est toi d'ailleurs qui reçois nos invités du jour.
Exactement, aujourd'hui on reçoit Zomat et Double T, deux rappeurs amiennois qui connaissent bien les studios de Radio Campus Amiens. Salut à vous deux, comment ça va ?
Salut, ça va
salut,
toi ?
Salut.
Bah, ça va bien, je suis hyper contente de vous recevoir. Zomat, tu es ici à l'occasion de la sortie de ton premier album La Vie d'Adulte, sorti le 10 janvier. Tout d'abord, félicitations.
Merci.
Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi tu as choisi ce titre, La Vie d'Adulte ?
Alors quand j'ai commencé cet album, c'était il y a à peu près 2 ans. Et c'était un moment de ma vie où j'avais beaucoup plus de responsabilités. Enfin, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de responsabilités qu'avant. Je me suis rendu compte de plein d'autres choses aussi, les gens qui partent, tes proches qui s'en vont, donc la réalité de la vie quoi, donc la vie d'adulte tout simplement. J'ai bien grandi, donc je pense avoir mûri, donc je me suis dit allez let's go, on part sur la vie d'adulte.
Ok, donc c'est le fait de grandir quoi.
C'est ça.
Ok. Et du coup, depuis plusieurs années, tu sors des EP très régulièrement. Pour ne citer que les derniers, Gloubi Boulga et en 2024, Opus et Zinz en 2023. Qu'est-ce qui a changé entre tes derniers EP et la volonté de sortir justement ton premier album ?
Eh bien, je pense que les EP, c'est plus un côté récréation en fait. C'est pour kiffer la musique. Tester des trucs, des prods complètement différentes l'une à l'autre. Et l'album, c'est quelque chose qui est plus réfléchi, je pense, par rapport à ces EP où je m'amuse, en fait. Et, en fait, ces EP-là sont sortis en même temps que je créais l'album. Hein, donc c'est vraiment entre deux. Je kiffe sur ce genre d'EP.
En quelque sorte, c'est le fait d'avoir réussi à compiler certains morceaux qui étaient déjà sortis dans tes EP et des nouveaux morceaux pour en gros fabriquer ton nouvel album.
Ouais, c'est ça en gros. C'est un peu ce truc où je me cherchais avant sur les EP, sur les styles musicaux. Et sur cet album-là, en fait, j'ai mélangé plusieurs styles où j'ai réussi à me retrouver en fait sur un style en fait finalement. J'arrive à maturité, je pense arriver à maturité sur les textes et sur les instrus par rapport à ce que je faisais précédemment quoi.
Ok, et du coup c'est quoi ces styles en question sur lesquels tu t'es justement retrouvé dans cet album ?
En fait maintenant quand je suis au studio, j'improvise la plupart du temps. Donc en fait je fais ça derrière le micro, j'écris pas forcément en fait. Donc, par exemple le morceau intro, il est écrit.
Ok.
Mais il y a plein de morceaux dans l'album qui ne sont pas écrits, je fabrique ça en fait derrière le micro. Il y a une phrase qui me vient en tête, je la pose, j'arrête. Il y a une autre phrase qui me revient en tête, je repose. Je fabrique comme ça et pareil pour les instrus, on fait ça avec les beatmakers sur place, comme ça on peut bouger l'instru, enfin on peut changer ce qu'on veut dans l'instru au fur et à mesure qu'on construit quoi.
Ok, donc un processus de création
en direct,
qui est en direct et
un peu.
Ouais, et pas écrit, donc vraiment
ouais.
Ok, et ça te plaît, tu penses avoir trouvé ton style et c'est ce pourquoi tu t'es dit ça peut constituer un album et mon premier album
carrément.
Ok, c'est super intéressant comme façon de créer. Et du coup, c'est ton premier long format avec 15 titres. Et on t'aborde souvent des sujets de la vie quotidienne. Est-ce que pour toi, c'est un peu le fil rouge du coup de cet album ?
Ouais, c'est ça. Il y a plein de thèmes abordés sur de la vie, que ce soit nos hauts, nos bas, les galères... Comme je disais tout à l'heure, les gens qui partent ou plein d'autres thèmes comme... Les factures d'électricité, par exemple.
Oui, dans ton morceau intro et...
C'est ça.
Exactement.
Dans le tour de l'Atlas, j'en parle aussi. Je fais référence j'en parle aussi dans Ennui. Mais d'ailleurs, qu'il y a un thème aussi de l'album, ouais. Ennui, comme il y a un autre thème qui est l'envie. Donc, Envie, c'est aussi un titre de l'album.
Et du coup, ça te semblait important de parler justement de ces sujets-là qui te préoccupent un peu plus, peut-être ?
Ouais.
Ok, super. Et bien, justement, t'en parlais un peu plus tôt. On va s'écouter tout de suite le morceau intro issu de ton premier album.
jamais fait semblant. J'ai toujours voulu vivre la vraie vie. Moi quand j'étais enfant, j'avais des rêves. Je voulais être comme Tracy McGrady. À 15 mois j'arrête le sport, à 16 on me sert des verres impossibles à prédire. Je prends le coup à ça, maintenant je me fais des films comme Alfred Hitchcock. C'est un doux bazar, mais moi j'adore quand t'enlèves tes parésies. Trop d'amnésie, mais à présent bah moi j'apprécie. Score, je fume la résine, et comme tabac je deviens imprécis. Y'a très peu de personnes qui m'impressionnent, trop peu de personnes qui confectionnent du pain béni. En symbiose avec moi-même, j'ai froid en décembre, j'avoue un peu moins vers le mois de mai.
Parce que la facture des lecs est salée.
Si j'ai faim personne ne m'indemnise,
mais y'a les vrais frérots qui sont là.
Même si j'ai rien mes seins me bénissent.
Bah, si j'ai faim ils me donnent la graille tu vois.
Frère,
non c'est indéniable mon gars, tu peux pas dire que c'est faux, c'est impossible.
Tous mes seins bénissent, certains tournent le dos. Je suis dans ma cuisine, je me fais un gratin avec un tourne d'eau. Et je vis pas à crédit même si je n'ai pas chez tout l'auto. Zomac l'original, toi tu ne peux pas vétro le proto. Franchement toi et moi on a quoi en commun? À part qu'on se croise dans les transports en commun.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens et on est en compagnie de Zomat et Double T. Il vient nous présenter son tout premier album. Et pour continuer, je voudrais aussi revenir sur un des titres, à 13, où tu parles clairement de politique. Et est-ce que pour toi, c'est le moyen d'exprimer ton avis politique ou même ton avis sur la société, ce genre de morceau?
Je pense que dans le rap, il faut un minimum donner son avis sur la politique, même si on n'est pas forcément... Sur tous les morceaux, je vais pas forcément parler de politique, mais je pense que c'est important quand même d'en parler, dont ce morceau à 13, mmh. Où Somsouk fait référence à une chose qui se passe, et qui est un génocide qui existe. Hein, et
tout à
du
fait.
Coup, on en parle forcément. D'ailleurs, il y a un clip qui est sorti avec que Yulen a fait, ce boss.
Exactement. Et du coup, c'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu essayes de faire à chaque, par exemple, à chaque projet, à chaque EP, justement, de parler des sujets de société en général aussi.
Je pense en parler la plupart du temps. Des fois, je fais pas forcément exprès. C'est ce que je pense vraiment. Donc, forcément, j'écris ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, forcément, voilà, on en parle.
Oui, des sujets comme ça qui touchent...
Qui sont importants.
Exactement. Après, ça touche, c'est aussi intéressant parce que ça touche à la politique internationale, pour le coup. C'est un sujet qui a été très débattu en France. Et du coup, je trouve ça aussi intéressant d'entendre ce genre d'avis et en plus, assumer, pour le coup, avec les paroles telles qu'elles sont.
Yes.
Et
on a eu l'occasion de le faire en concert, d'ailleurs. C'était top.
Ok, cool. Trop bien.
Ouais.
Et du coup, je suppose la salle hyper réceptive.
Ouais, quand même. Puis Somsouk habillant en super Palestine, quoi.
Oh, waouh. <C'était
épique. rire>
J'aurais aimé voir ça. J'imagine. Du coup, la vie d'adulte, c'est aussi 4 feats, 5 invités, des prods et un directeur artistique amiennois, des beatmakers au studio d'enregistrement. Tu as créé un album avec des artistes et des acteurs locaux. Pourquoi avoir fait ce choix, justement?
Parce que tout simplement, c'est une bande de copains avec qui on travaille et je trouve que c'est plus simple de faire comme ça que de... Après, c'est bien aussi d'avoir des beatmakers extérieurs à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais c'était important pour moi de construire l'album entièrement avec mes potes. En fait, c'est mes potes, les beatmakers. Donc, je trouvais que c'était important pour la cohérence du projet et tout.
Oui, et en plus, ça correspond aussi à ta façon de créer. Si tu te retrouves au studio et que tu crées sous le...
C'est ça.
Je pense que ça permet aussi de se sentir à l'aise dans ton processus de création aussi.
Clairement, clairement.
Ouais, surtout, comme il disait, il écrit pas, il improvise derrière le micro. Et il y a certaines phrases qu'il vaut mieux faire en compagnie de beatmaker qu'on connaît les premières qui sortent.
De ouf.
Avant qu'on les éventuellement modifie, mais non, c'est être en famille pour ça, c'est bien.
Ouais, clairement.
Justement, Double T, t'es ici pour nous présenter le label Satel Inc. Pardon.
C'est ça.
Pourquoi avoir signé un artiste comme Zomat?
Déjà, le projet de Satel Inc, c'est un projet qui a pour but d'être local dans un premier temps. Donc de travailler avec des artistes locaux, axés rap et musique urbaine. Zomat, on a la chance de travailler ensemble déjà en tant qu'artiste l'un avec l'autre depuis un moment. Il m'a invité d'ailleurs sur le projet, sur le morceau Ennui, que j'aime beaucoup. Et Zomat, c'est en fait la façon dont il crée déjà, elle est assez unique. En France, il y a d'autres rappeurs qui le font, ce qui s'appelle un peu le shit talk, le fait de de balancer des phrases comme ça qui nous viennent en tête, qui veulent pas forcément dire grand-chose. Et lui, il arrive à le faire d'une manière consciente. Ça veut dire que moi, un des trucs qui m'a le plus surpris sur l'album, c'est qu'il arrive à faire 15 titres presque tous non écrits, donc que par l'inspiration qu'il a comme ça, et qu'il y a une cohérence pourtant dans l'album, tu vois, qui est ultra présente. Et je pense que les gens qui s'ils savent pas qu'il a pas écrit, ils peuvent pas se dire qu'il a pas écrit, quoi.
Exactement.
Voilà. Et donc productif, fort, et il y a un bête de rappeur, tout ça. Enfin, tout simplement, quoi. En plus d'être un bon humain.
Merci, mon ref.
Et du coup, quels sont les projets de ton label?
Alors nous, on travaille en fait avec des artistes à 360 degrés. Donc c'est-à-dire qu'on fait la partie phonographique, donc tout ce qui va être lié au disque, au streaming, à l'enregistrement et à la production par rapport à ça. Donc on essaie d'intervenir un maximum à ce niveau-là. Et également, on travaille en fait sur la partie du live pour développer du coup le booking et essayer d'aller chercher des concerts, sortir de région et travailler sur ce roster d'artistes. Et le dernier volet qui est un petit peu plus vraiment local, ça va être d'accompagner d'une manière générale les artistes et leurs entourages, essayer de les professionnaliser un petit peu, mais ça d'une manière plus ponctuelle avec des projets qui viennent nous voir ou autre, quoi, pas directement dans le label, moins business, on va dire, plus social, quoi, qui est important aussi pour nous à Amiens.
Ok, et tu me disais en off, vous êtes trois à avoir créé ce label. Okay.
On est trois associés, donc trois artistes, un beatmaker d'ailleurs qui est sur le projet de Zomat aussi, qui s'appelle Mursovski, qui est un peu notre boss administrateur, donc vraiment, vraiment fort dans la paperasse, ce qui, nous, est un peu moins notre cas.
Il en faut.
Et c'est ça, il en faut. Toute bonne structure a des bons administrateurs. Et le dernier, c'est Fefe, donc qui travaille aussi avec le CRIC, sur les soirées à Vomaic et tout ce qu'ils ont pu faire avec le CRIC, et qui était également artiste dans un groupe qui s'appelait Dirty South Crew, et qui avait pas mal marqué la scène amiénoise il y a quelques années.
Ouais, je m'en souviens. Et pour ce qui est de la direction artistique de ton album, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce choix de la couverture où on te voit cuisiner en train de repasser? Est-ce que tu peux nous expliquer les contextes?
L'idée, en fait, elle était... On était ensemble, je crois.
Ouais.
C'est toi qui m'as montré une photo. C'était une cover, si je dis pas de conneries, de Snoop Dogg. Une vieille cover d'il y a, allez, 15-20 ans, peut-être. Un vieux truc des années 2000 où on le voit en fait en Marcel avec une meuf derrière et en train de repasser un truc, vraiment une photo simple de la vie quotidienne, quoi. Bon, moi je voulais enlever la meuf, hein, forcément, parce que bon voilà, on est pas au state. et du coup, bah, on s'est dit pourquoi pas essayer de recréer un univers un peu comme dans cette cover en fait de Snoop Dogg, avec nos couleurs et ce qu'on avait envie de mettre en avant. Et Yulen, il a fait ça comme un big boss. On a fait une séance photo, on a pris une dizaine de photos et il y en a deux qui sont ressorties vraiment magnifiques. Et c'est comme ça qu'on a fait ça.
Et j'ai vu aussi sur tes réseaux, t'as pas mal sorti des sortes de teasers pour justement pour cet album-là.
Ouais.
Exactement. Et en plus, t'as sorti un CD. Quelque chose de physique.
Ouais, on a fait des CD physiques, j'en ai fait une centaine d'exemplaires et on est hyper content d'avoir fait ça, d'avoir l'objet, c'est magnifique.
Et sans pour l'instant, parce que ça part quand même assez vite.
De ouf.
Ça, c'est cool. Bon, en même temps, c'est vrai que
ça fait plaisir.
Oui, puis c'est vraiment un projet avec une direction artistique du coup qui est là de A à Z et j'aime bien, même dans les couleurs du teaser, on retrouve les couleurs de la couverture. C'est vraiment, c'est vraiment poussé jusqu'au bout.
Ouais, c'est réfléchi, quoi. Après, Yulen, il sait faire ça.
Ouais.
C'est le boss.
Et petite question comme ça, est-ce que dans cet album, tu aurais un... je sais pas, peut-être une musique préférée et pourquoi?
Je dirais, je vais faire un top 3. Je dirais Lingot d'or en premier parce que l'instru elle est incroyable, tout simplement, et j'aime beaucoup les paroles et les flows de cette chanson.
Okay.
En deux, je mettrais à 13 parce que ça me tient à cœur et que j'adore ce son et c'est un banger.
Ouais.
Aussi. Et en 3, je mettrais Outro, parce qu'elle me tient vraiment à cœur. Je parle de quelque chose dedans qui est important pour moi et que j'avais besoin de mettre en chanson.
Ok, et si ça te gêne pas d'en parler, tu parles de quoi?
En gros, je parle du décès de ma tata, qui nous a beaucoup touchés dans notre famille. Et du coup, j'ai mis ça en musique comme j'ai pu. Et j'adore le morceau parce que on entend que dedans ma voix elle est, on entend que j'ai envie de pleurer quoi. Donc enfin si on fait bien attention, on entend que dans la voix je suis pas au mieux.
Ouais.
Mais je trouve ça stylé, j'aime bien comment ça a été retranscrit et donc voilà.
Ouais, tu as mis du cœur quoi.
Ouais.
Si je peux me permettre aussi sur Outro, je pense que par rapport aux 14 titres qui viennent juste avant, ils clôturent vraiment bien le truc quoi. Ça fait vraiment le passage de bah maintenant voilà, c'est là la vie d'adulte elle commence vraiment à la fin d'Outro quoi.
Voilà. C'est ça.
OK. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, un dernier mot
Allez streamer l'album.
Gribao.
Venez en DM pour acheter l'album, c'est pareil. Merci à vous pour tous vos retours aussi.
Disponible à la Maladisque aussi. L'album.
Disponible à la Maladisque
pour
aussi.
Ceux qui veulent aller
exactement.
Directement.
Big et Sola,
soutenir les disquaires locaux.
Je voudrais remercier tous les gens avec qui j'ai bossé pour cet album. Donc, ils se reconnaîtront. Hein, je ne vais pas donner tous les noms. Mais voilà. Et puis, merci Satellink pour la confiance aussi.
Et du coup, merci à vous d'être venus sur Radio Campus Amiens. Et on termine en beauté cette interview avec La vie d'adulte, le morceau éponyme de ton album.
Pour la vie d'adulte, j'prends du papier, je roule un dessin pur. J'veux des papiers, des rouges et des mauves. J'veux arrêter de rouler tous ces bédos. J'vois qu'il y en a plein qui veulent tout saboter. Dans ton équipe, c'est des poucs et des hauts. J'veux du gratin, je mange pas de CBO. Donne mon cachet, tu peux me bouquer, c'est bon. J'suis sur la plage et c'est beau. Tu fais que plager, c'est beauf. Frérot, t'as pas les épaules. Quand tu dis que tu taffes tes épaules, le frère il est complètement mort, il est abasourdi. Je lui donne le sourire quand il n'a pas le sourire. Il fume sur le pet pendant que la basse bourrit. C'est moi qui pose, le frère tient la souris. Si je suis stressé, je fais une balade où je pisse. J'ai plein les stocks, mais je suis pas la nourrice. Moi je veux être une légende. Et Soba la voix de Lou Reed. J'ai pas la voix de Louis Armstrong. J'ai Louis, oui, tu sais, bitch. Armstrong. J'ai étoffé la team d'un big patron. Tu fais des moves que je ne pige pas. Quand j'ai besoin d'une piste, pas 30. Passons. J'ai besoin de m'isoler ou de me faire une bonne bouche. Je suis pas désolé, même quand je suis dans le doute. J'peux pas me raisonner face à ce que mec qui prend le pouvoir pense vouloir. Lui ôter la bouche. Pour la vie d'adulte, j'prends du papier, je roule un dessin pur. J'veux des papiers, des rouges et des mauves. J'veux arrêter de rouler tous ces bédos. J'vois qu'il y en a plein qui veulent tout saboter. Dans ton équipe, c'est des poucs et des hauts. J'veux du gratin, je mange pas de CBO. Donne mon cachet, tu peux me bouquer, c'est bon. J'suis sur la plage et c'est beau. Tu fais que plager, c'est beauf. Frérot, t'as pas les épaules. Quand tu dis que tu taffes tes épaules. J'ai toujours du feu, une allumette, un zip. J'crache toujours du feu avec une amulette sous le zip. Faut la suivre, mais il fait même pas si bon. Technique comme un Uzi, agressif comme si bon. Y'a des relations corrosives, on me dit t'as des flots, c'est robotique. J'ai les idées noires comme un gros gothique. Ils ont mat l'original, non pas le prototype. Je ne prends pas de protoxyde d'azote. Le plus compte tes potos toxiques. Ta soeur, c'est t'as pas fait ton possible. T'attends. Je crois que je suis pas prêt pour la vie d'adulte. J'prends du papier, je roule un disque impur. Je veux des papiers, des rouges et des mauves. Je veux arrêter de rouler tous ces bédos. Je vois qu'il y en a plein qui veulent tout saboter. Dans ton équipe, c'est des poucs et des hoes. Je veux du gratin, je mange pas de CBO. Donne mon cachet, tu peux me bouquer, c'est bon. J'suis sur la plage et c'est beau. Tu fais que plager, c'est beauf. Frérot, t'as pas les épaules. Quand tu dis que tu taffes tes épaules. Lui, il dit qu'il taffe, il va même pas au charbon. Il connaît personne, il connaît même pas le jargon. Lui, il sait qu'il est beauf, lui, il sait que c'est un fardeau. J'construis une phrase, ouais, j'construis mon radeau.
Vous venez d'écouter le morceau La vie d'adulte de Zomat, et si vous avez raté son interview en première partie d'émission, elle est disponible en replay sur notre site internet radiocampusamiens.fr. Pas d'actu aujourd'hui, mais une chronique concoctée par Romane. Elle nous parle d'un sujet toujours dans l'actualité des 50 ans de la loi Veil, les techniques d'avortement avant que la loi ne passe.
Est-ce que vous saviez que des chercheurs ont retrouvé la trace d'un texte juridique qui interdisait déjà l'avortement dans la Mésopotamie antique ? Eh bien, on l'appelle le code de Hammurabi, ce qui veut dire que l'avortement est une pratique qui ne date pas d'hier. Alors aujourd'hui, pour avorter, on privilégie ce qu'on appelle la méthode de Karman. En gros, c'est une technique plus sûre qui a permis de réduire de beaucoup le risque de mortalité. Il suffisait d'aspirer le contenu dans l'utérus à l'aide d'une seringue souple que l'on appelle canule. Et en fait, cette seringue, elle était reliée à une pompe récupérant ce qui a été aspiré. En fait, si vous voulez, c'est un peu le même principe qu'un aspirateur. Mais avant qu'elle ne soit popularisée en France, on était en 1972, et avant que la loi Veil instaure un cadre médicalisé et légal pour avorter 3 ans après, eh bien voici comment ça se passait. Alors, il y a évidemment les concoctions de grand-mère. Outre les plantes qui feraient venir les règles, dit-on, on conseillait aux filles de boire ou de se laver le vagin avec des substances comme du vinaigre, de l'eau de Javel ou même des boissons sucrées comme le coca. Sinon, toujours à ses risques et périls, il suffisait d'avaler des médicaments déconseillés en temps de grossesse. L'idée, c'était aussi d'en combiner plusieurs et de ne pas chipoter sur la dose. S'ajoutaient à cela des prières, des gris-gris et autres amulettes en tout genre, et elle s'exposait aussi volontairement à des chutes, avec l'espoir que la violence du choc provoque une fausse couche. Et si on n'était pas trop fan de chimie, on se servait d'un objet solide. Cela pouvait être n'importe quoi du moment que l'ustensile était suffisamment pointu pour percer la poche des os et ouvrir le col de l'utérus. Alors, un os de poulet ou une cuillère pouvait faire l'affaire, mais on connaît surtout les aiguilles à tricoter ou même les cintres qui étaient utilisés par... les faiseuses d'anges. Vous demandez sûrement ce que c'est les faiseuses d'anges. Eh bien, en fait, ce sont des femmes qui, je vais prendre l'exemple de Marie dans le film Une affaire de femme de Claude Chabrol. Eh bien, en fait, elles ne sont pas forcément médecins, mais elles aidaient les autres à avorter clandestinement. Et pour autant, c'est un risque à prendre pour le personnage de Marie, puisque en fait, c'est comme ça qu'elle gagnait sa vie et qu'elle pouvait faire vivre son foyer parce que son mari, il était revenu blessé de la guerre. Et donc, en fait, tout le monde y trouvait son compte. Mais quant à l'opération, elle est déjà douloureuse et en plus, l'acte se pratique sans précaution d'hygiène. L'objet n'est pas stérilisé, donc les infections sont très nombreuses et mortelles. On parle notamment de septicémie, ça se traduit par des bactéries dans le sang, à minima. Et si elle n'en meurt pas, d'autres s'en sortent mutilées ou stériles. Après l'opération, elle devait attendre de saigner pour aller aux urgences et avoir le droit au curetage réservé aux fausses couches dites naturelles. Alors on a Valérie, une femme qui a témoigné dans l'émission « Ça commence aujourd'hui » de Faustine Bollaert, où elle raconte qu'elle a fait face à un médecin soupçonneux et d'autres disent même s'être faite engueuler parce qu'ils savaient d'où ça venait. Et donc on comprend qu'une loi qui interdisait l'avortement ne freine pas pour autant les femmes dans leur élan, quitte à ce qu'elles mettent en péril leur propre vie. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles la loi Veil est passée, parce qu'en fait il fallait leur offrir un cadre sûr et légal qui pourrait réduire le nombre de morts.
Si la loi Veil, elle a aidé de nombreuses femmes en France, bah dans certains pays, ils avancent encore à reculons. Hein. Enfin bref, c'est déjà la fin d'Info Club Sandwich. Je vous souhaite, chers auditeurs et auditrices, de passer un très bon week-end. En attendant, vous allez pouvoir écouter le 8e épisode de Prépanorama, la série de podcasts réalisée par Jasmine sur les différentes prépas amiénoises. Je vous laisse avec My God Has a Telephone d'Aaron Fraser et on vous dit à lundi dans Info Club Sandwich.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 8e épisode de Prépanorama. C'est une émission qui a pour objectif de vous présenter les différentes classes préparatoires à Amiens et ses alentours, avec la participation des étudiants et des professeurs des différentes formations. Pour la deuxième partie de cet épisode, nous sommes avec Alexandre et Lucie du lycée Louis Tullier à Amiens pour nous présenter leurs ressentis au sein de la filière mathématiques, physique, ingénierie et informatique. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors je voudrais, dans un premier temps, parler de tes impressions sur la CPGE. Comment tu décrirais ton expérience en tant qu'élève en CPGE ?
Bah, c'est une bonne expérience. C'est quelque chose que, au début de ma terminale, j'envisageais pas forcément de faire. Mais maintenant que je suis dedans, je trouve que c'est une super expérience et je suis vraiment content d'être là.
Quel aspect de la classe préparatoire tu apprécies le plus en termes de matière et d'ambiance, par exemple ?
Le fait que dans la classe, tout le monde veuille travailler, qu'on a vraiment un groupe soudé dans la classe où c'est vraiment important de travailler et on travaille tous les jours ensemble.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer le choix de cette CPGE-là ?
Ouais. J'ai choisi cette CPGE parce que j'ai toujours été intéressé par l'informatique. Ça se traduisait notamment par la spécialité NSI que j'ai prise en première et que j'ai abandonnée après pour m'ouvrir le plus de portes possible. Et quand après ma terminale, j'ai vu que j'avais la capacité d'aller en classe préparatoire, celle de la MP2I s'est tout de suite imposée à moi parce que l'informatique étant quelque chose dans lequel je voudrais travailler, pour moi c'était la voie naturelle d'aller là-dedans.
Avant d'évoquer justement tes objectifs professionnels et scolaires, est-ce que tu pourrais nous décrire la charge de travail en CPGE ? Quelle est la journée typique, entre guillemets, ou la semaine typique en CPGE ?
Les journées de travail, par rapport aux différents... Il y a différents types d'élèves, et ça dépendra vraiment des différents types d'élèves. Je sais que j'ai besoin de beaucoup travailler pour réussir. Donc pour ça, en règle générale, c'est un lever sur les coups de 7 heures pour aller manger. Moi, je suis interne, donc j'ai de la chance pour aller au self qui est juste à côté. Ensuite, on commence les cours sur les coups de 8 heures. On termine en règle générale entre 16h et 18h dans les cas exceptionnels. Et ensuite, c'est travailler peut-être un petit peu avant manger. Et ensuite, moi, je travaille jusqu'à 23h.
Du coup, qu'est-ce qui va changer de l'emploi du temps qu'on peut retrouver dans un lycée, par exemple ?
Dans un lycée, enfin, on est toujours dans un lycée, mais par rapport à la terminale typique, on va avoir des emplois du temps qui sont peut-être un petit peu plus lourds, c'est à peu près équivalent. Mais on n'a que des matières qui nous intéressent. On va avoir des mathématiques, de la physique, de l'informatique. Encore un petit peu d'anglais et de français, parce que c'est important en tant qu'ingénieur. Mais dans l'absolu, où il n'y a plus d'histoire-géographie, qui potentiellement pourrait ennuyer certains élèves. Et sinon, c'est encore une fois beaucoup de temps de travail chez soi en plus.
Pour revenir un peu sur l'enseignement, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la relation avec les enseignants ? Est-ce que c'est simple de pouvoir s'entretenir avec les enseignants ou de prendre des rendez-vous avec eux ?
Oui, c'est assez simple, parce qu'en fait, nos profs sont assez proches de nos professeurs, contrairement à des personnes qui seraient en fac. Nos profs sont vraiment très à l'écoute de nous, on les voit souvent. Concernant par exemple notre prof de maths qu'on voit 12 heures par semaine nous concernant, on est assez proche de lui. Si jamais on a des questions vis-à-vis de n'importe quel professeur, on peut leur demander, parce qu'on est très très proche d'eux et on n'aura aucun mal à les voir, même en deuxième année ou troisième année.
Qu'est-ce que tu envisages après la CPGE ? Quelles sont les écoles par exemple que tu préférerais ?
Alors moi je sais que j'aimerais bien me diriger vers la cybersécurité après, donc potentiellement faire une école d'ingénieur qui me destinerait à la cybersécurité. J'ai pas vraiment de concours ou d'école en tête, mais je pense par exemple, si je dois viser haut, à l'ENSIMAG, à Grenoble, qui est une très bonne école réputée en cyber.
Pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux futurs étudiants de la CPGE, voire même aux étudiants en général ?
Surtout pas avoir peur de la prépa. Moi, quand j'en entendais parler par mes profs, par mes parents, on décrivait ça comme un endroit où on fait que travailler, où on ne voyait pas le jour. C'est pas tout à fait ça. Dans les faits, il y a beaucoup de types d'élèves différents. C'est un endroit où j'ai rencontré des super personnes que j'oublierai jamais. Et donc pour moi, pour aborder la prépa, il faut commencer à se préparer en termes de travail. C'est important au moins d'avoir un travail régulier au lycée et surtout pas avoir peur et de voir ça comme une future bonne expérience.
Eh bien, merci Alexandre.
Merci.
Nous sommes avec Lucie, également élève du coup en MP2I au lycée Louis Tullier. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Je voudrais dans un premier temps parler de tes impressions sur la CPGE. Comment est-ce que tu décrirais toi ton expérience en tant qu'élève ?
Je trouve que l'expérience en tant qu'élève de CPGE est très instructive parce qu'on apprend énormément de choses comparées à d'autres écoles post-bac. Avant d'entrer en CPGE, j'avais beaucoup de... Enfin, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ce que c'est maintenant. Et je pense que c'est aussi le fait de s'y être habitué. Mais sinon, en règle générale, ça reste une très bonne expérience.
Quel aspect justement de la classe tu préfères ?
Dans cette classe-là, on a une très très bonne ambiance de classe. On a un groupe très soudé entre élèves et on travaille tous ensemble tous les soirs et ça aide beaucoup au niveau motivation pour travailler. Mais sinon, j'aime aussi... Pardon. J'aime aussi le fait que dans cette classe, on y a un... Enfin, tout le monde est assez au même niveau, on va dire. Il n'y a pas de, trop d'élèves qui sont exclus ou... Voilà.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer les raisons pour lesquelles tu as choisi cette CPGE-là ?
Moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire plus tard. Et la CPGE, ça reste quand même quelque chose d'assez généraliste où on n'est pas obligé de spécifier dans un domaine spécial pour la suite. Donc je me suis dit, déjà, ça va me laisser 2 ans supplémentaires afin de savoir vers où je vais me diriger. Je savais que je voulais aller vers un milieu informatique. Donc j'avais choisi en première maths physique NSI et je l'avais poursuivi maths NSI en terminale. Et la MP2I, comparée aux autres CPGE, c'était la seule prépa qui... là où il y avait le plus d'heures d'informatique, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi la MP2I.
Tu pourrais peut-être nous parler de ce que tu envisages de faire après la CPGE. Quelles sont les écoles, par exemple, qui t'intéressent le plus ?
Pour l'instant, je n'ai pas encore d'école qui m'intéresse. Enfin, je ne me suis pas encore vraiment renseignée par rapport à ça. Comme je l'ai dit avant, je ne sais pas trop encore ce que je veux faire. Je sais juste que je vais aller vers l'informatique. Et après, moi, je ne vise pas forcément une école haute, juste une école avec des spécialités que je voudrais faire plus tard. Donc, après, je ne sais pas encore quel concours je vais choisir.
Est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs étudiants de CPGE, voire même des conseils aux étudiants en général ?
De se dire que tout le monde est capable d'aller en CPGE s'ils savent qu'ils vont travailler. Parce qu'en vrai, n'importe quel élève qui est en CPGE et qui travaille s'en sort quand même assez bien en général. C'est vraiment le travail qui prime en CPGE. Donc tout le monde est capable d'y arriver. Et ne pas trop... Enfin, il faut écouter ce qu'on dit avant par rapport au fait que la prépa, ça va être difficile. Mais souvent, c'est... Enfin, ce qu'on entend, c'est quand même... pire que ce que c'est vraiment, parce qu'au final, peut-être les premiers mois, ça va être difficile, mais après, on va vite s'y habituer et ça devient quelque chose d'habituel.
Eh bien, merci Lucie pour toutes ces informations.
Merci.
Nous étions avec Alexandre et Lucie afin de présenter la filière MP2I au lycée Louis Tullier à Amiens. C'était le 8e épisode de Prépanorama, une production réalisée en partenariat avec la mission d'enseignement supérieur, recherche et innovation d'Amiens Métropole. À bientôt.